ce matin au Radio-Journal. Inondations au Québec, des routes affaissées ou coupées.
On est vraiment de tout corps avec ceux qui vont vivre des situations difficiles.
Une personne manque à l'appel dans Lanaudière. Escalade de tensions au Proche-Orient, la marine iranienne saisit un bateau cargo lié à Israël. Et les infirmières de la FIC rejettent l'entente de principe avec Québec.
C'est un résultat assez alarmant. Je cache pas que ça me surprend un peu.
Le gouvernement et le syndicat retourneront à la table des négociations. Bonjour, ici Marie-Michèle Bordua. La crue printanière cause déjà des dégâts au Québec où des inondations sont rapportées dans plusieurs régions. Dans Lanaudière, des recherches sont en cours à Chertsey pour tenter de retrouver une personne portée disparue après l'affaissement d'une chaussée. Raphaël Drouin est sur place. Raphaël, la personne qui manque à l'appel, était à bord d'une voiture qui s'est retrouvée coincée dans l'eau.
Voilà, c'est une partie de la chaussée, tout juste après un pont qui a cédé sous la pression de l'eau cette nuit. Il y a deux véhicules qui se sont retrouvés coincés alors que le débit était fort, que l'eau était haute. Deux personnes qui ont pu sortir par elles-mêmes d'une voiture qui sont saines et sauves. Mais il y a une autre personne qui se trouvait à bord d'un autre véhicule qui, elle, manque toujours à l'appel. La Santé du Québec a envoyé des plongeurs qui devraient arriver sous peu. Ça va compliquer, retarder également la réouverture de cette route parce qu'il faut savoir, il y a une cinquantaine de résidents permanents qui se trouvent de l'autre côté qui est maintenant enclavé. On va écouter la mairesse de Chertsey, Michèle Joly.
On trouve ça vraiment désolant, mais ici à Chertsey, nous sommes entourés de beaucoup d'eau et de rivières. Donc, on est vraiment de tout corps avec ceux qui vont vivre des situations difficiles.
Raphaël, des cours d'eau sont aussi sous surveillance dans d'autres régions de la province.
Il y a une inondation majeure du côté de Saint-Jérôme, la rivière du Nord, des inondations moyennes également ici aux alentours dans Lanaudière, Rawdon, Sainte-Émilie de l'Énergie, où d'ailleurs on a déclaré l'état d'urgence local. Des fermetures de route également ailleurs, lac Beauport, je le voyais ce matin, l'Abitibi également, et on me disait également là, dans le nord-est de l'Ontario, des fermetures de route encore là dues à des inondations.
Merci Raphaël.
Merci.
Pendant ce temps, en Atlantique, de fortes pluies sont à nouveau attendues aujourd'hui en Nouvelle-Écosse et à Terre-Neuve et Labrador. Les accumulations d'eau pourraient atteindre 90 mm d'ici demain.
Ailleurs dans le monde.
Les tensions s'accentuent entre Israël et l'Iran. Plusieurs pays, dont le Canada, demandent à leurs ressortissants d'éviter la région par crainte d'un embrasement au Proche-Orient. Hier, le président américain a averti l'État hébreu d'une attaque imminente. Les forces spéciales iraniennes ont saisi ce matin un navire dans le détroit d'Ormuz. Je joins Ariane Ménage à Tel Aviv. Ariane, Téhéran affirme que ce navire est lié à Israël.
Ce porte-conteneur alors naviguait sous pavillon portugais, mais il appartient, selon les médias iraniens, à un homme d'affaires israélien. Cette saisie est donc sans doute l'un des premiers éléments de la riposte promise par l'Iran après la frappe attribuée à Israël qui a visé son consulat à Damas le 1er avril. D'ailleurs, peu de temps après cette opération des gardiens de la révolution, Israël a renouvelé ses mises en garde. Je cite, « L'Iran subira les conséquences de son choix d'aggraver davantage la situation ». Une déclaration cet après-midi heure locale du porte-parole de l'armée israélienne.
Et Ariane, l'état d'alerte est en vigueur en Israël. Quelle est l'ambiance actuellement dans les rues?
Alors, il y a un étrange sentiment d'attente mélangé à de l'anxiété. Cette riposte promise par Téhéran, c'est le sujet qui, vous l'imaginez, occupe les discussions de tous les Israéliens depuis plusieurs jours. J'ai d'ailleurs pu croiser certaines personnes qui, par crainte d'une attaque massive, ont fait des provisions d'eau et de nourriture au cas où elles devraient être bloquées dans les abris. Et puis l'armée, vous l'avez dit, est elle aussi en état d'alerte depuis plusieurs jours. Elle a notamment procédé à un renforcement de la défense aérienne. Elle brouille aussi, par exemple, les signaux GPS. Et puis à l'étranger, les représentations, les ambassades israéliennes sont elles aussi en état d'alerte. Elles pourraient être une cible potentielle. Israël qui se prépare donc en très étroite coopération avec les États-Unis. Washington a d'ailleurs annoncé l'envoi de renforts dans la région. Des troupes sont actuellement en route. Et puis le chef des opérations militaires américaines au Moyen-Orient a lui aussi été dépêché en Israël.
Ariane Ménage à Tel Aviv, merci.
Merci à vous.
En Australie maintenant.
The devastating scenes at Bondi Junction are beyond words or understanding.
Des enquêteurs étudient la scène de crime dans un centre commercial de Sydney après l'attaque au couteau qui a fait au moins 6 morts. 8 personnes, dont un bébé de 9 mois, ont été transportées à l'hôpital. L'assaillant a été abattu par la police et selon le premier ministre australien, il aurait agi seul et il n'y a pour l'instant aucune indication concernant ses motivations. Des attaques comme celle-ci sont rares en Australie où la législation sur les armes à feu et les couteaux est l'une des plus strictes au monde. Au pays, les membres de la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec ont rejeté l'entente de principe conclue avec le Conseil du Trésor en mars. Le résultat du vote de 3 jours a été dévoilé dans la nuit. J'en parle avec Nafi Alibert. Nafi, les instances syndicales avaient pourtant recommandé l'adoption de l'entente.
Effectivement, mais les membres ont donc décidé d'agir autrement puisqu'ils ont dit non à 61% à cette entente. Et Marie-Michel, ce sont les 3/4 des 80 000 membres de la FIC qui ont participé à ce vote et qui envoie un message clair d'insatisfaction au gouvernement. On a discuté de tout ça avec Claudette Carbonneau, c'est l'ancienne présidente de la CSN, et elle parle aussi d'un signal alarmant, et pas que pour le gouvernement.
On comptait beaucoup sur le signal à donner à toutes celles qui avaient quitté le réseau pour aller travailler dans des agences privées, pour les inciter à revenir vers le réseau. Disons que comme résultat à court terme, là, le signal est plutôt alarmant et négatif.
D'ailleurs, la reconnaissance de l'ancienneté de ces infirmières du privé qui reviendraient dans le public était un des points de friction dans les négociations. On peut aussi parler de la flexibilité qui est exigée des infirmières. Alors, on n'en sait pas plus pour l'instant sur ce qui a coincé. Il y a Sonia Lebel, la présidente du Conseil du Trésor, qui a annoncé sur X que les discussions devraient reprendre avec le syndicat pour comprendre ce qui achoppe. Et on en saura probablement plus à 11h avec un point presse prévu avec la présidente de la FIC.
À suivre donc. Merci Nafi.
Avec plaisir.
Les militants du Parti québécois se réunissent à Drummondville cette fin de semaine à l'occasion de leur Conseil national. Il y sera notamment question d'habitation. Sébastien Desrosiers suit ce conseil pour nous. Sébastien, le PQ dit ne pas vouloir attendre les prochaines élections avant de proposer des solutions à la crise du logement.
Non, exactement. Je ne vous apprends rien si je vous dis qu'il y a pénurie de logements, baisse des mises en chantier, le prix des maisons augmente. C'est vraiment l'un des thèmes de l'heure en politique québécoise. Ce faisant, la porte-parole du Parti québécois, Mégane Perry-Melançon, revient d'une tournée nationale de 6 semaines où elle est allée chercher des pistes de solutions à la crise du logement dans plus d'une douzaine de régions, en fait. Parmi les propositions dont il sera question cette fin de semaine, en voici quelques-unes. Vendre des bâtiments gouvernementaux inoccupés depuis la pandémie, éliminer les barrières bureaucratiques pour construire plus vite, interdire les locations de type Airbnb à plusieurs endroits dans les municipalités où le taux d'inoccupation est sous les 3 % établir un registre public des loyers et protéger les aînés de 65 ans et plus à faible revenu des évictions. Pourquoi l'habitation? Pourquoi maintenant, à 2 ans de la prochaine échéance électorale? Voici Mégane Perry-Melançon.
On ne peut pas attendre en pleine crise du logement. On veut pouvoir agir dès maintenant. Et puis oui, ça pourra être notre offre pour les prochaines années, voire la prochaine élection.
Alors, elle présentera le bilan de sa tournée aujourd'hui. Et Paul Saint-Pierre Plamondon, lui, doit prononcer un discours ici vers 10 heures.
Merci, Sébastien.
Je vous en prie.
Au Nouveau-Brunswick, le premier ministre Blaine Higgs a effectué une nouvelle nomination au sein de sa garde rapprochée qui sème la controverse. Son chef de campagne cumulera également le poste de secrétaire principal dans son cabinet et il sera rémunéré par les contribuables, ce que dénonce l'opposition. Voici les précisions d'Alex Villeneuve.
Blaine Higgs a choisi Steve Holthouse pour être le secrétaire principal de son cabinet, un poste pour lequel il pourra empocher un maximum de 125 000 $ des fonds publics d'ici la prochaine élection. Mais Steve Holthouse, qui habite en Ontario, est également directeur de campagne pour le Parti progressiste conservateur.
Well, I think the key thing is that no public resources will be used on anything, you know, electoral. So,
il assure pouvoir séparer son double rôle en évitant d'utiliser de l'argent ou des ressources publiques pour ses tâches partisanes, mais l'opposition estime qu'il s'agit là d'une nomination inappropriée. Voici David Kuhn du Parti vert et le libéral Robert Gauvin.
C'est important que le bureau du premier ministre continue de servir le bien commun.
C'est que Blaine Higgs est rendu qu'il n'est plus capable d'engager quelqu'un du Nouveau-Brunswick pour être capable de travailler pour lui. Il est obligé d'aller chercher ailleurs. Et c'est un peu triste parce que quand ça arrive, ce sont les gens du Nouveau-Brunswick qui payent à la fin du compte.
Steve Holthouse remplace Paul Dastoux, qui est devenu chef de cabinet de Blaine Higgs depuis le départ de Louis Légère il y a un peu plus d'un an. Ici Alix Villeneuve, Radio-Canada, Fredericton.
Voilà, c'était le Radio-Journal. Pour d'autres nouvelles, consultez l'application Info ou encore leradiocanada.ca. Bonne journée à notre antenne.